France Culture.
Farouk Mardembe, bonjour.
Bonjour.
C'est déjà l'épisode 3 de nos entretiens à voix nue. Et pour ce troisième temps, nous allons parler des amis, des années parisiennes, puisque nous nous sommes quittés au moment où le régime d'Hafez al-Assad, arrivé à la tête du pouvoir en 1970 en Syrie, se durcit après 1973 et la guerre dont vous nous avez parlé à la fin de l'épisode précédent. Et vous avez dit le régime se durcit, donc on va parler de ce régime qui se durcit et des effets qu'il a eu sur vous, des engagements qui furent les vôtres, et puis de l'expérience de l'exil. C'est pour ça que j'ai intitulé ce troisième temps « L'ailleurs et le chez-soi ». Vous nous disiez au premier épisode que vous n'étiez pas retourné en Syrie depuis 50 ans, depuis 1975 et les obsèques de votre mère. Parce qu'en fait, en 1976, vous avez été privé de votre passeport.
Exactement.
À Paris, vous avez manifesté et on vous a retiré votre passeport. Voilà. Ce qui prouvait bien le durcissement du régime.
Oui, bon, le régime s'était durci. Mais aussi, en 1976, en juin 1976, il est intervenu au Liban. Il envoyait son armée au Liban contre les Palestiniens et contre la gauche libanaise. Et comme nous étions tout à fait engagés pour les Palestiniens, pour l'OLP, on était très nombreux. En fait, c'était assez courant parmi la jeunesse arabe à Paris, en France, aussi bien les gens du Proche-Orient que du Maghreb. Et oui, on a manifesté, on a même écrit, je me rappelle qu'on a signé une pétition contre l'intervention. Et cela, bien sûr, a été très mal pris par le gouvernement. Surtout que Assad lui-même était venu en France fin juin 76 à l'invitation de Giscard d'Estaing. Et il y a eu une nouvelle manifestation. Bon. Et donc, on m'a privé de mon passeport. C'est-à-dire, on a dit, bon, on renouvelle plus le passeport. Et on était menacé d'arrestation si on remettait les pieds en Syrie. Bon. Donc, je pouvais plus revenir. Et cela était assez pénible aussi pour la situation en France. Parce qu'on ne pouvait pas renouveler les cartes de séjour tant qu'on n'a pas de passeport. Bon. Donc c'était quelques années assez compliquées sur le plan administratif.
Jusqu'à l'obtention de la nationalité française en 1980.
Oui, en 82.
En 82
En 82, oui, mais ça fait quand même un peu
mal de temps. Ça fait quand même 6 ans. Et quand vous avez pris la nationalité française, vous avez pu garder la nationalité syrienne
en même temps ? Oui, absolument. La nationalité syrienne ne tombe pas par une décision comme ça des services de renseignement, quoi. Donc j'ai vécu quelques années assez difficiles parce que la carte de séjour que j'avais pour un an, on me la réduisait à 3 mois parfois, etc. Et bien entendu, après, j'ai continué donc à militer et pour la cause palestinienne et pour la nouvelle cause syrienne qui était celle de la démocratie contre Hafez al-Assad.
Les mouvements syriens dans les années 80 en France étaient actifs ?
En 1980, oui, justement. C'était d'ailleurs une année où j'étais très actif à tous les niveaux. D'abord sur le plan politique, en Syrie, l'année 1980 a eu le premier grand massacre des prisonniers en Syrie. 1000 personnes, à peu près 1000 prisonniers ont été liquidés à la mitraillette dans la prison de Palmyre.
Le 27 juin 1980.
Et 2 ans après, c'était le grand massacre de Hama, avec 20 000 à 30 000 tués. Bon. En 1980, il y a plusieurs étudiants syriens qui ont essayé d'accompagner un peu l'opposition dans la protestation, dans le travail d'information sur ce qui se passait en Syrie. J'en faisais partie. Bon. Et j'étais assez proche d'une scission du Parti communiste. Le Parti communiste pro-soviétique était resté pro-Assad. Mais il y avait eu une scission déjà à la fin des années 70 sous le nom Parti communiste bureau politique, dont le leader était Riyad Turk, un nom très célèbre en Syrie puisqu'il est allé passer en prison dans une cellule tout seul, isolé, pendant 18 ans. Et en 1980 aussi commençait la grande rafle de toute l'opposition syrienne, des frères musulmans, aux nationalistes syriens, aux communistes anti-Assad, donc du bureau politique, aux communistes de la Ligue d'Action Communiste, tous les militants pratiquement étaient arrêtés. Bon, et ont subi des tortures insupportables, bien entendu, terribles, dans toutes les prisons, notamment à Palmyre. Notamment à Palmyre, où il y a eu aussi des exécutions massives. Là, on accompagnait, on était des étudiants syriens, quoi, des étudiants et de jeunes intellectuels, disons. Et on accompagnait l'opposition dans ces protestations. Et cela a duré, d'ailleurs, jusqu'à la fin, jusqu'à la chute du régime. Bon, mais en 1980, j'ai dit que j'ai été très actif. parce que on a commencé à parler de la possible création d'une revue d'études palestiniennes.
Qui a vu le jour un an plus tard, en 1981.
Oui, le premier numéro a paru en octobre 81. Et avec Elias Sambar, justement, on a publié ensemble un album illustré en hommage à notre ami que j'ai cité, Ezzedine Kalak, assassiné à Paris en 78, reproduisant ses cartes postales de Palestine. Livre qui a été publié en 1980. Et nous avons fondé une petite maison d'édition à Beyrouth, Kitaba, Écriture, où nous avons publié deux coffrets, l'un en arabe, l'autre en français, intitulés Classiques arabes. De très beaux coffrets, avec des miniatures en couleur. Un coffret très raffiné, comme ça. Et puis, on voulait continuer à faire de l'édition d'art, mais cela n'a pas marché, enfin. Alors, on a arrêté là. Et la revue d'études palestiniennes, donc, a été lancée par l'Institut des études palestiniennes à Beyrouth, qui était le plus actif, peut-être, des instituts culturels palestiniens, des instituts de recherche, bon, qui publiait une revue en anglais et qui voulait publier en français une deuxième revue. Voilà.
Pourquoi revue d'études palestiniennes et pas revue d'études arabes ?
Oui, parce que c'était centré sur la question palestinienne. Bon, la question palestinienne dans son contexte aussi bien régional qu'international, mais c'était centré sur la Palestine. Et dès le premier numéro d'éditorial, je me rappelle, c'était « Un peuple comme les autres ». Et c'était notre idée, c'est-à-dire qu'il fallait expliquer au public français c'est quoi la question palestinienne. Bon, celle d'un peuple qui ne veut pas être supérieur aux autres, qui veut être exactement comme les autres, avoir une patrie, un territoire à lui, etc. Et le premier article dans la revue était quelques notions simples sur l'antisémitisme pour marquer notre conscience de la question de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on compare avec l'idée que nous combattons l'antisémitisme tout en étant antisioniste. Bon, c'était ça. Et puis la revue a été publiée pendant un an. C'était une revue trimestrielle. On imprimait à Beyrouth. Et elle était diffusée par les éditions de Minuit en France. C'était là aussi une très grande chance. Je me rappelle que c'était Elias qui a été voir Jérôme Lindon.
Le patron des éditions de Minuit.
Soutenu par Gilles Deleuze et Pierre Vidal-Naquet. Bon, deux grands noms chez Minuit. Et Lindon a accepté avec enthousiasme de diffuser la revue. À partir du cinquième numéro, on a été obligé de publier en France. Parce que c'était l'année de l'invasion israélienne du Liban. Et l'Institut d'études palestiniennes a dû arrêter un moment, ou geler un moment son activité à Beyrouth. Bon. Et donc, on a été chargé de continuer à publier la revue en France. Elias, à partir du dixième numéro, devenait le rédacteur en chef, et moi, le directeur de la publication, chargé de toutes les questions administratives et financières, en plus d'être membre du comité de rédaction.
Mais il y avait aussi une rubrique sur la littérature arabe dont vous vous occupez.
C'est venu après. Au début, il y avait une ouverture culturelle évidente, ce qui n'était pas le cas des autres publications de l'Institut à Beyrouth ou de la revue en langue anglaise. Là, on avait dès le début une ouverture littéraire, artistique, etc. Il y a eu une première série de 52 numéros. Et puis dans la deuxième série, à partir de 93 ou 94, on a fait une rubrique dont je m'occupais, qui était des traductions de littérature arabe, de poèmes, ou de nouvelles, ou d'extraits de romans, etc. Et pas seulement palestiniens, c'est-à-dire des choses palestiniennes, mais aussi du reste du monde arabe.
Et la revue pouvait, Farouk Mardambeh, éditer des livres aussi, puisque c'est dans ces années-là, 92-93, que vous publiez un livre important pour vous, en deux tomes, avec votre ami Samir Kassir, qui était historien, qui était journaliste libanais. Ce livre, c'est « Itinéraire de Paris à Jérusalem, la France et le conflit israélo-arabe de 1917 à 1991 ». On voit bien donc que là, vous vous spécialisez, c'est pas le mot. En tous les cas, que dans ces années-là, vous engagez beaucoup en faveur du droit des Palestiniens, vous l'avez dit, beaucoup dans le conflit israélo-palestinien, peut-être même un peu plus dans les années 85-93 que pour la Syrie, à ce moment-là.
Sans doute, au point où beaucoup de gens me prenaient pour Palestinien, quoi. Bon. Oui, on a lancé cette collection, on a commencé par un livre d'Elias, d'ailleurs, et puis deux ou trois autres livres, et notre livre sur la France et le conflit israélo-arabe. J'ai connu Samir Sir à Paris, il était venu en 82, un peu en fuyant le Liban, parce qu'il était très engagé, et pendant l'invasion israélienne, il a quitté, il est venu en France. Il était brillant, tout jeune, et Samir est né en 1960, donc en 82, il avait 22 ans, mais il publiait déjà des articles dans Le Monde diplomatique, bon, et en plus d'articles dans la presse libanaise, en langue française. Et il nous a envoyé un article en 83 sur la presse française et l'invasion du Liban. Et donc on l'a adopté il y a 6 mois, il était plus jeune que nous, et il est devenu rapidement secrétaire de la rédaction, membre du comité de rédaction et secrétaire de la rédaction. Peut-être c'est à cause de cet article et de mes souvenirs de 67, l'attitude très hostile aux Palestiniens et aux Arabes en 67.
En France.
Voilà, qu'on a décidé d'écrire ce livre. Alors on s'est mis au travail et je me suis occupé surtout de la documentation. Vraiment, on a bien travaillé cela pendant 3 ans peut-être pour écrire ce livre. Et puis moi j'avais quelques difficultés, j'avais toujours mis beaucoup de temps, je suis très lent à l'écriture. Alors que Samir pouvait écrire 8 feuillets en une nuit, comme ça, et bon. Donc il était un peu le moteur quand on a commencé à rédiger. Et je me rappelle qu'il passait chez moi chaque jour à minuit pour voir combien de pages
vous
j'ai
en
écrit.
Étiez. Mais en même temps, à votre décharge, Farouk Mardambeh, on est au début des années 90. Il se trouve qu'en 1989, vous devenez le conseiller culturel de l'Institut du Monde Arabe. Et en même temps, vous êtes tout de suite le directeur de la bibliothèque du même institut. Donc, oui. Vous avez un gros travail à plein temps.
J'avais un gros travail, mais n'empêche
donc, bon.
Que la page blanche me faisait peur.
Finalement, le livre a été fait en 2 tomes.
Oui, mais c'est vrai que je prenais un temps fou pour écrire, quoi. Alors que lui, il était d'une rapidité incroyable. Et finalement, pendant les 2-3 premiers mois, il me rendait visite chaque jour pour voir ce que j'ai fait. Et finalement, j'étais désinhibé grâce à lui, quoi. Et je commençais à écrire avec beaucoup plus de facilité. Les 2 tomes font plus de 800 pages, quoi. Bon, ce n'était pas prévu que ce soit aussi gros au début. Mais on a voulu vraiment traiter de tout, quoi. C'est-à-dire pas seulement parler de la politique du Quai d'Orsay, mais d'analyser la presse, de dire l'alliance militaire entre la France et Israël dans les années 50, comment cela se passait, l'attitude de l'armée, où en étaient les églises catholiques et protestantes, la communauté juive, quelles étaient les positions de la communauté juive, est-ce qu'il y avait des divisions ou non, est-ce qu'elles étaient toutes pour la politique israélienne, du gouvernement israélien ou non, etc. Et cela a donc nécessité beaucoup de pages. Et je crois que le livre est devenu une référence. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y a des livres ou des articles sur la politique française au Proche-Orient, quand il est question de revenir un peu dans l'histoire, le livre est cité, quoi. Et cette collaboration avec Samir nous a rendus très très proches. Bon, j'étais son aîné de 16 ans, mais on était vraiment très, très amis.
Et vous êtes resté amis jusqu'à son assassinat, puisque Samir Kassir a été tué au Liban le 2 juin 2005. Ça fait donc 20 ans, cette année 2025. Il a été tué dans un attentat à la voiture piégée. Pour vous, c'est évidemment une immense perte amicale, c'est un ami. Mais au-delà de ça, Farouk Mardambeh, Samir Kassir, c'était aussi un ardent défenseur de la démocratie, de la laïcité.
Absolument. Et un opposant, le père de Samir était palestinien et sa mère syrienne. Et lui est né au Liban, il se sentait d'abord libanais. Mais il avait aussi ce double héritage. Il était très militant vraiment de la cause syrienne contre Assad, en tant que journaliste. Et c'est pour ça qu'il a été tué. Et j'ai souvent dit que le jour de sa mort, jusqu'à maintenant, je considère que c'est le jour le plus triste de ma vie, quoi. C'est parce qu'on était vraiment très, très amis. Je l'aimais beaucoup. Et puis, il a été assassiné en plus. Je veux dire, on a eu des amis qui ont été assassinés avant lui. J'ai cité Zedine. Mais lui, il était vraiment en plein épanouissement. Il venait de publier sa thèse absolument brillante sur la guerre du Liban, puis un livre sur l'histoire de Beyrouth, et j'ai publié chez Actes Sud, Considérations sur le malheur arabe, un petit livre, un petit essai très percutant. Et donc, il était brillant, et tout le monde disait qu'il allait avoir un très brillant avenir, quoi. Donc, il a été comme ça assassiné. C'était très, très dur pour moi. Voilà. Et j'étais à son enterrement, bien sûr, à Beyrouth, et c'était très triste. Bon. Alors, la revue a duré jusqu'à 2008. On a dû l'arrêter parce que l'Institut avait une crise financière. On dit, voilà, on a une revue maintenant en arabe. Vous avez publié une troisième revue en arabe, une revue en anglaise et une en français. Si on doit sacrifier l'une, on va sacrifier la française parce que l'arabe est devenu essentiel. Et l'anglaise avait une plus large diffusion. Voilà. Donc, on a arrêté en 2008. Et il se fait qu'en 2008, j'ai pris ma retraite aussi à l'Institut du monde arabe. Et à l'Institut du monde arabe, je me suis occupé... Bon, j'étais toujours à Actes Sud.
Puisque vous avez pris vos fonctions à Actes Sud en 1995.
Oui, Actes Sud de 95. Oui, jusqu'à maintenant, ça continue. Et je me suis occupé aussi d'édition à l'Institut du monde arabe. Pendant quelques années, de la bibliothèque, comme directeur de la bibliothèque. Mais aussi de publier des livres en coédition entre l'Institut et des maisons d'édition différentes. On a fait plusieurs livres.
Enfin, dans ces années-là, Farouk Mardambe, vous publiez aussi, vous. Peut-être renouez-vous avec le deuxième pan, la deuxième jambe que vous aviez un peu laissée de côté, la poésie. Puisque dans ces années-là, vous publiez aussi des anthologies de poésie arabe. Alors, pas de la poésie que vous écrivez, vous,
oui.
Mais des anthologies de poésie arabe. Et puis, des livres de cuisine. La cuisine de Ziryab, le traité du pois chiche. Voilà, au tournant des années 90-2000. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas dit encore, c'est que... Dans ces années syriennes, il y a eu des moments très importants pour vous, qui étaient des moments avec vos tantes paternelles, qui étaient des très grandes cuisinières. Et donc, il y a des odeurs, il y a des saveurs, il y a un apprentissage de la cuisine. Le traité du pois chiche et la cuisine de Ziryab, ça vient-il de cette enfance ?
Oui, j'ai souvent dit que personne n'écrit des livres de cuisine s'il n'est pas gourmand. Mais en même temps, tous les gourmands n'écrivent pas des livres de cuisine. Bon, donc là, il se fait que, à un moment donné, à l'Institut du monde arabe, le président nous a demandé de publier un magazine, ça s'intitulait Kantara. Et après un an, il nous a demandé, c'est un peu sec, je voudrais qu'il y ait une rubrique plus sympathique comme ça, plus proche, par exemple, sur la cuisine ou sur le football. Bon, j'ai dit, bon, je me charge de livre sur la cuisine. Je ne sais pas comment j'ai eu cette audace, parce que je n'avais rien écrit avant sur la cuisine. Et j'ai commencé par un article, je m'appelle, sur l'aubergine, éloge de l'aubergine, puis éloge de la fève. Et ces chroniques, dans Kantara, je les ai réunies sous le titre « La cuisine de Ziryab ». Voilà, Ziryab étant un musicien, un gastronome, beaucoup de choses, quoi. Andalou. Enfin, il était originaire de Bagdad, mais qui avait émigré en Andalousie, installé à Cordoue au 9e siècle, au début du 9e siècle, et qui était considéré comme l'arbitre du bon goût, l'arbitre des élégances, quoi, en Espagne musulmane. Donc, j'ai emprunté son nom, je signais Ziryab, ses articles. Et le traité de pois chiche était aussi sur un coup de tête comme ça avec un ami, un économiste français, Robert Bistolfi, qui m'a dit « J'ai envie d'écrire un livre sur une chose futile, pas d'économie, pas de truc. » Comme quoi, sur les lentilles, par exemple, ou les pois chiches. Alors j'ai dit « Chiche, on va sur les pois chiches. Voilà. »
Chiche, on va sur les pois chiches.
Et on a fait. On a fait.
Ce qui vous a permis, Farouk Mardambe, de faire peut-être une petite pause aussi dans vos propres engagements, qui étaient quand même des engagements politiques très très sérieux, très très graves. Donc là, une petite pause de légèreté ou de futilité, ça fait pas de mal. Cela dit, la Syrie ne vous a jamais lâché, hein, et en particulier au tournant des années 2000, Farouk Mardambe, il y a eu un moment qui a pas duré très longtemps, qui était 8 mois, juste, qu'on a appelé le printemps de Damas.
Même moi.
Alors, Jean-Pierre Perrin, dans le journal Libération, écrit à propos de ces 8 mois entre la mort d'Hafez al-Assad et l'intronisation de son fils Bachar, qu'on a appelé donc le printemps de Damas, il écrit « Un printemps inattendu ». Qui avait commencé au lendemain de la mort, le 12 juin 2000, du président Hafez al-Assad et de l'intronisation au fait du pouvoir de son fils Bachar. Un printemps lumineux, sans équivalent dans l'histoire moderne de la Syrie, puisqu'il avait subitement libéré une parole captive depuis plus de 30 ans et fait éclore dans tout le pays des dizaines de forums où l'on osait réclamer plus de démocratie, de liberté et l'avènement d'une société civile. C'est le 8 février que l'hiver est revenu glacer la Syrie. Vous vous souvenez de ce moment ?
Oui, quand il est arrivé au pouvoir, le serment devant le Parlement, il a dit, voilà, on va faire une ouverture. Il n'a pas parlé d'ouverture politique, mais enfin, il a parlé d'une ouverture. Et il a permis l'éclosion de clubs de discussion. Mais cela n'a pas duré longtemps. Selon moi, c'était moins de 8 mois. Et fermeture, nouvelle fermeture. Et puis, pour des raisons à la fois internes à la Syrie et pour des raisons régionales, notamment la mainmise de la Syrie sur le Liban, le régime s'est durci de nouveau et il a eu un conflit avec les États-Unis et la France notamment, la France qui se comptait comme protectrice du Liban depuis longtemps, qui a abouti finalement à une résolution de l'ONU, la résolution 1559 en 2004, suivie de l'assassinat de Rafik Hariri, le premier ministre libanais, par les services de renseignement syriens, par le Hezbollah, mais en tout cas, ce côté-là. Bon. Et puis après, donc l'armée syrienne a dû quitter le Liban, et commence une série d'assassinats, dont celui de Samir Kassir, et d'autres journalistes, et d'autres députés, etc. Tous ces assassinats étaient attribués à la Syrie, aux services syriens. Et l'opposition s'est mobilisée pour former un rassemblement de toutes les tendances, allant des frères musulmans aux communistes, qu'on a appelé la déclaration de Damas. Ça a été réprimé très durement et les gens ont été mis en prison, etc. Et ça a recommencé. Bon. Donc ce printemps de Damas n'a pas duré longtemps.
Ah,
c'était
de très courte durée.
On était, bon, tous...
Mais vous y croyez, vous ?
À vrai dire, pas beaucoup, parce que l'arrivée de Bachar Assad au pouvoir est une arrivée inacceptable. C'est-à-dire, c'est une dévolution dynastique en République. Le président Hafez Assad voulait que son fils Bass, le fils aîné, lui succède. Bass est mort dans un accident de voiture. Alors, il a dit, bon, si c'est pas Bass, ce sera Bachar. Bachar qui avait fait des études de médecine et puis qui étudiait l'ophtalmologie à Londres. Et on l'a nommé secrétaire général du parti Bass, puis général de l'armée, pour être président, parce que le président devait être militaire et devait être apparemment aussi de la famille Assad. Bon, alors, cela n'a pas été accepté par beaucoup de gens dans l'opposition. Bon, mais les intellectuels ont joué le jeu dans des associations pour la revivification, comme il disait, de la société civile, pour la levée de l'état d'urgence, ce qui n'a pas été fait.
Il y a eu une pétition
la pétition date de l'année de son arrivée.
99 intellectuels qui ont demandé la liberté d'expression et la démocratie.
Exactement.
Vous en faisiez partie,
non,
parce que les
signataires, c'était ce qu'on avait voulu, que les signataires soient tous à l'intérieur de la Syrie et prennent des risques. C'est-à-dire que c'était très facile que des gens à l'extérieur signent. Bon, mais c'était plus difficile que les gens de l'intérieur qui risquaient la prison. Bon, donc ils ont été courageux en signant cette pétition. Et cela, c'était d'ailleurs une décision très sage et très courageuse.
Vous, dans toutes ces années-là, on a commencé au milieu des années 70, quand vous avez été privé de passeport. Et là, nous terminons cet épisode sur le tout début des années 2000 avec la prise de fonction de Bachar al-Assad. Pendant toutes ces années où vous avez milité, où vous êtes engagé, où vous avez été opposant au régime des Assad, Farouk Mardimbeh, vous n'avez jamais eu peur, vous n'avez jamais été menacé ici en France ?
Non. Non, menacé en France, non, franchement non. Mais je savais que j'étais recherché par le service de renseignement, on me le disait. Parfois, il y a même des parents avaient des échos, ils me disaient « fais attention », etc. Bon, mais aussi, c'est-à-dire, nos activités n'étaient pas des activités très provocatrices, quoi. Parce que c'était une opposition intellectuelle. Dans l'information, etc. Ça dépassait pas ça. Et eux, ce qu'ils craignaient, surtout en Syrie, c'était les voisins, quoi. L'Irak, ils se méfiaient beaucoup des Palestiniens. pas d'intellectuels résidant en Europe.
Je voudrais terminer cet épisode en vous citant un ami à vous, qui est sans doute l'un des plus grands intellectuels syriens vivant, qui a passé 16 ans dans les geôles d'Assad.
Yassine.
De 1980 à 1996, et qui vit aujourd'hui en exil à Berlin, et qui est retourné, comme vous.
Il n'est plus en exil,
qui était à Berlin jusque-là, jusqu'à la chute du régime de Bachar al-Assad, et qui est retourné en Syrie. Vous l'avez d'ailleurs rencontré en ce début d'année 2025, Yassine Alhadj Saleh, pardon pour la prononciation française. Dans Mediapart, il dit « Dans l'exil, nous étions en sécurité, protégés du plus atroce. » Nous suivions la situation et parlions à ceux qui étaient restés. Ayant échoué sur la question de la représentation politique, nous avons tenté d'accomplir quelque chose au niveau de la représentation conceptuelle. Dans mon domaine, nous avons investi le champ du sens. Et il ajoute, nous avons créé des réseaux de soins à la dimension protectrice. Se rencontrer, échanger des idées, des histoires, des souvenirs et des repas, ces expériences ont eu un effet humanisant sur nous. Si nous avons réussi à rester sains d'esprit après tout ce que nous avons vécu, c'est parce que nous avons bâti ces réseaux et ces expériences collectives.
Oui, oui, très bien dit. Bon, Yassine est... Aujourd'hui, en ce moment, il est l'intellectuel le plus actif, le plus productif, le plus inventif, d'ailleurs. Et c'est un grand lecteur dans tous les domaines. Et il y a quelques années, d'ailleurs, j'ai publié un recueil de ses articles chez Actes Sud,
la sous
le titre
syrienne.
La question syrienne. Voilà. C'est l'un des meilleurs livres qui existent sur la période de Hafez et de Bachar.
Votre exil, à vous, était un exil qui s'est transformé en un chez-vous, en
tout
une
cas,
maison
en tout cas, j'ai toujours dit que c'était un exil qui était très enrichissant, il faut le dire, parce que ce n'est pas vrai que quand on est installé, intégré dans la vie culturelle du pays ou la vie économique du pays où on réside, qu'on pense jour et nuit au pays natal. C'est pas vrai. C'est-à-dire, on travaille, on est dans une autre société, on est dans un autre pays, on est aussi engagé dans la vie quotidienne, dans la vie active, dans la vie professionnelle de ce pays. Donc, cela, je veux dire, le fait de travailler, surtout pour moi, de travailler dans des domaines, comme je l'ai dit, à la frontière du monde arabe et de la France, cela adoucissait beaucoup l'exil, quoi. Parce que j'étais aussi très proche de la Syrie, tout en étant loin physiquement, quoi. Et du reste du monde arabe, et très proche de ma langue natale. Bon, ce n'est pas comme des gens qui ont été complètement coupés de leur pays.
D'autant que, en éditant, comme vous l'avez fait, les littératures arabes, vous avez effectivement maintenu, et en particulier aussi des auteurs de Syrie,
oui.
Vous avez bien sûr maintenu, en dehors de vos activités politiques, un lien très fort avec votre pays. C'est ce que nous verrons dans l'épisode suivant, Farouk Mardembeh, qui sera consacré à cette littérature que vous éditez depuis 30 ans maintenant au sein de Sinbad Actes Sud. Sinbad, 30 ans de littératures arabes, et je le mets au pluriel.
Oui.
Merci, à demain.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue avec Farouk Mardembeh, réalisation Laure-Hélène Planchet, prise de son Stéphane Foulon, chargé de programme À Voix Nue, Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.